Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70. Nathalie Hamard.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour les deux prochaines semaines dans Appel sur l'actualité. Deux semaines au cours desquelles on va vivre entre autres le soixantenaire des indépendances dans plusieurs pays où vous êtes nombreux à nous écouter. D'ailleurs, si vous avez des souvenirs de cet été 1960, si vous l'avez vécu, si vous avez envie aussi de nous faire part de votre bilan de 6 décennies d'indépendance, eh bien n'hésitez pas, 4 pays sont concernés pour les deux prochaines semaines. Bénin, Niger, Burkina Faso et Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est aussi notre débat. Dans 20 minutes, faut-il une refonte totale de la commission électorale indépendante? C'est ce que réclament d'une même voix 2 partis de l'opposition, FPI et PDCI, appel lancé à moins de 3 mois de la présidentielle. Ils reprochent à la CEI d'être trop favorable au pouvoir malgré la réforme adoptée l'an dernier, après avoir été longuement discutée. Et on sait évidemment à quel point l'équilibre au sein d'une institution comme celle-là est crucial à l'heure des grands scrutins, comme cette présidentielle qui se prépare en Côte d'Ivoire pour le 31 octobre. Vous nous appelez, vous nous dites ce que vous en pensez, 09 693 693 70, et puis bien sûr Facebook, WhatsApp, on attend vos réactions. Mais d'abord, comme chaque matin, vos questions sur l'actualité, et le premier appel nous vient aujourd'hui de Pointe-Noire au Congo. Bonjour Fabrice.
Bonjour Nathalie.
Alors vous vouliez revenir, vous, sur la décision des États-Unis de fermer le consulat chinois à Houston, au Texas. C'était en fin de semaine dernière. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo qualifiait ce consulat de plaque tournante de l'espionnage dans le contexte, on le rappelle, d'une guerre commerciale et diplomatique à épisode entre Pékin et Washington. Fabrice, quelle est votre question? On vous écoute.
Les États-Unis ont demandé au ministère des Affaires étrangères chinois de fermer son consulat de Houston, suspecté d'abriter des espions. Et j'ai 3 questions à vous poser, mais la première, c'est pourquoi ce consulat a été fermé alors qu'il y en a d'autres aux États-Unis? Comptent-ils fermer les autres et en ont-ils les droits?
Alors pour vous répondre ce matin, Fabrice, on est en ligne avec Anne Desine. Bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour Fabrice, bonjour à tous et à toutes.
Anne Desine, professeure émérite à l'Université Paris-Ouest-Nanterre, auteure de plusieurs ouvrages sur les États-Unis. Anne Desine, pourquoi Houston, la Chine, a 5 consulats sur le territoire américain? Pourquoi celui-là?
En fait, il n'y a pas eu tellement de réponses. Les consulats chinois et l'ambassade à Washington sont effectivement des lieux d'espionnage, on le sait, et ce n'est pas seulement durant la présidence Trump. Simplement, on pense, mais l'administration n'a rien dit, qu'il y a eu une tentative de vol d'informations sur le vaccin anti-Covid en préparation. Et donc ça a permis à Mike Pompeo, qui de toute façon veut monter en puissance dans le différend avec la Chine, qui devient presque un différend de guerre froide, mais qui a commencé par la guerre commerciale, de dire bah, ce sera Houston. Mais ça pourrait être n'importe lequel. En théorie, bien sûr, les États-Unis pourraient fermer tous les consulats, mais là, ce serait un signal très fort que les États-Unis veulent la fin de toute coopération, de toute relation diplomatique avec la Chine.
Et donc, a priori, on s'arrêtera, en tout cas pour l'instant, Fabrice, à ce consulat de Houston. Fabrice, vous aviez justement une question au sujet de ces suspicions d'espionnage dont nous parlait Anne Desine. Votre deuxième question.
Oui, ma deuxième question consiste au personnel qui a été aperçu en train de brûler des documents dans la cour du consulat. Et que sait-on sur cet épisode?
Anne Desine?
Alors effectivement, on a vu des images et c'est tout à fait classique. C'est-à-dire un consulat ou une ambassade, c'est une enceinte extraterritoriale. C'est-à-dire c'est un petit morceau de Chine au sein des États-Unis. Donc ils n'ont pas à se protéger. La police américaine, le FBI, n'a pas le droit de rentrer dans l'enceinte du consulat. À partir du moment où ils doivent vider les lieux, il faut tout détruire, tout ce qui est compromettant, tout ce qui pourrait servir à la puissance qui a accueilli. Si vous avez vu le film Argo, c'était la prise de possession de l'ambassade à Téhéran. Rappelons-nous, tout le personnel de l'ambassade, les gens du service des visas détruisent par exemple les passeports, les tampons, tout ce qui pourrait servir au pays d'accueil, en l'occurrence l'Iran, pour falsifier les documents. Là, c'est la même chose que font les Chinois pour se protéger, à la fois ne pas laisser de preuves si effectivement qu'il y avait des éléments prouvant qu'ils avaient essayé de voler de la propriété intellectuelle, ce qui est sans doute le cas. Donc, ils essaient d'effacer les preuves.
Mmh, c'est vrai que ces images des diplomates chinois filmés en train de brûler des documents peuvent choquer. Donc, c'est à la fois la volonté de nuire peut-être aux États-Unis, de les empêcher d'avoir des traces concrètes dans le cadre de ces suspicions d'espionnage. En même temps, ça accrédite un peu la thèse que c'était bien un nid d'espions, Anne Desine.
Oui, mais c'est tout à fait classique. Je veux dire, les ambassades, y compris les ambassades françaises, les ambassades américaines, ont pour mission, quelque part, de trouver de l'information sur le pays. Donc, à partir du moment où ils doivent viser les lieux, ils doivent détruire le maximum de choses en un minimum de temps. D'où ces énormes fourneaux dans la cour et les nuages de fumée que l'on a vus. C'est normal. Alors, on peut se réjouir, etc., mais c'est classique.
Fabrice, quelle était votre troisième question à Anne Desine?
Et ma dernière question, c'est comment la Chine réagit-elle?
Alors, il y a eu la fermeture du consulat de Chengdu. C'était une menace depuis la semaine dernière et puis c'est effectif depuis ces dernières heures. Que dire de cette réaction, Anne Desine? C'est assez mesuré, finalement.
Moi aussi, c'était classique et c'était inévitable. La chose qu'on peut retenir, c'est pourquoi ce consulat qui est dans le sud-ouest des États-Unis. Une des raisons qu'avancent les spécialistes, c'est que c'est le consulat qui a la juridiction sur le Tibet. Et on sait que le Tibet, c'est un problème pour la Chine, puisqu'à chaque fois qu'une puissance occidentale critique sa politique au Tibet, elle est accusée d'être anti-chinoise. Donc, en fermant ce consulat plutôt qu'un autre, les Chinois se disent que peut-être ils auront moins de problèmes sur la question tibétaine.
Mais en même temps, si les Chinois avaient voulu frapper plus fort, ils auraient pu fermer le consulat de Hong Kong, qui a une surface plus importante.
Alors, c'était effectivement un choix et ça vient dans le sillage de la loi sur la sécurité nationale qui est une attaque caractérisée contre l'autonomie de Hong Kong. Je pense que là, les Chinois ont eu peur de la réaction qui aurait été non seulement une réaction américaine, mais une réaction internationale.
Fabrice, a-t-on répondu à vos interrogations?
Très bien répondu et je vous remercie à vous et à toute votre équipe qui fait un bon travail.
Merci Fabrice de nous avoir appelé de Pointe-Noire et merci à Anne Desine, professeure émérite à l'université Paris-Ouest Nanterre, dont on peut citer un ouvrage, Les États-Unis et la démocratie chez l'Harmattan. On accueille à présent Samuel. Bienvenue Samuel.
Bonjour Nathalie.
Vous êtes en ligne de Koupéla au Burkina Faso et votre question, Samuel, concerne le chef rebelle centrafricain Abdoulaye Miskine, arrêté au Tchad en octobre dernier et qui fait désormais l'objet d'une plainte dans ce pays. On vous écoute, Samuel.
Oui. Mes questions, c'est de savoir pourquoi la justice tchadienne s'est saisie du dossier et que reproche-t-elle à Abdoulaye Miskine?
Alors Charlotte Cosset est à mes côtés pour vous répondre. Bonjour Charlotte.
Bonjour Nathalie et bonjour Samuel.
Correspondant d'RFI à Bangui, on est ravis de vous avoir cet été à la rédaction et en studio. Abdoulaye Miskine qui dirige le FDPC, Front démocratique du peuple centrafricain, actif donc en Centrafrique. Abdoulaye Miskine soupçonné donc aussi de crimes au Tchad où il a été arrêté, présenté au juge d'instruction début juin. Et c'est donc au Tchad que vient d'être déposée une plainte avec constitution de partie civile. Pour quelle raison, Charlotte?
Alors, pour commencer, il faut rappeler un peu quelques éléments de contexte. Abdoulaye Miskine est un Tchadien né dans la ville de Dinada. Il navigue pendant de longues années entre le Tchad et la Centrafrique. Il se fait particulièrement connaître au début des années 2000. Il est un homme de confiance du président centrafricain de l'époque, Ange Félix Patassé. Ce dernier fait recruter environ 300 mercenaires tchadiens et le président Patassé place à la tête de ces hommes Abdoulaye Miskine et le charge de lutter contre le banditisme dans la zone frontalière avec le Tchad. Il s'installe alors à Cabo et mène parallèlement à sa mission officielle des opérations d'enrichissement personnel, notamment en raquettant les éleveurs tchadiens de passage. 180 tchadiens auraient ainsi été tués dans ce contexte par les groupes de Miskine, avait dénoncé l'ambassadeur tchadien en Centrafrique à l'époque. Alors, au même moment, il y a les troupes de Bozizé qui se trouvent, elles, au Tchad. Ils tentent une première incursion en Centrafrique en août 2001 et les hommes de Miskine sont là, les repoussent jusqu'en territoire tchadien. Miskine et ses hommes font donc des allers-retours des deux côtés de la frontière au début des années 2000. Si on veut être plus récent, on sait aussi qu'en 2018, Abdoulaye Miskine était actif dans le nord-ouest de la Centrafrique. Il a bloqué à plusieurs reprises l'axe ravitaillant Bangui depuis le Cameroun. La mission des Nations Unies, la MINUSCA, mène alors une opération contre ses positions en avril 2019. Miskine se replie vers le nord-est de la Centrafrique. Et de nouveau, il navigue de part et d'autre de la frontière, une nouvelle fois cherchant à se réarmer et à recruter. Et c'est dans ce contexte qu'il a été arrêté en octobre, au Tchad, dans la ville de Tissi. Alors, selon un des avocats de Miskine, la justice tchadienne poursuit Abdoulaye Miskine officiellement pour organisation de mouvements insurrectionnels et viol, des actes qui ont été posés ou qui auraient été posés en 2004.
Alors Charlotte, organisation de mouvements insurrectionnels, viol, en 2004, ce sont les seules charges qui pèsent contre Abdoulaye Miskine.
Alors comme vous l'avez dit la semaine dernière, une organisation des droits de l'homme tchadienne, la CACIDO, a annoncé avoir déposé des plaintes de plusieurs dizaines de victimes tchadiennes contre Abdoulaye Miskine pour différents crimes. Enlèvement, séquestration, sévices graves, extorsion de biens, également association de malfaiteurs et assassinat. La partie civile n'a pas souhaité être plus précise, ne révélant ni le lieu ni la période concernant ces plaintes. Les enquêtes et les auditions sont encore en cours.
Alors Samuel, vous aviez une autre question concernant la réaction des autorités centrafricaines ?
Oui. Et comment les autorités centrafricaines réagissent à ce procès ?
Alors, lorsque les autorités centrafricaines ont appris l'arrestation d'Abdoulaye Miskine, une délégation officielle s'est rendue tout de suite à N'Djamena pour demander son extradition vers Bangui. Effectivement, l'homme est aussi recherché par Bangui. Il a commis, comme on l'a dit précédemment, de nombreux crimes. Cette demande n'a pas abouti. Les autorités tchadiennes ont fait savoir qu'elles comptaient juger d'abord Miskine sur leur territoire, étant donné qu'il aurait commis aussi des crimes au Tchad et qu'il est de nationalité tchadienne. Ce n'est qu'après la tenue du procès à N'Djamena qu'il pourrait potentiellement être transféré vers Bangui. Cependant, il se pourrait aussi que la justice internationale s'empare de ce dossier. L'Organisation de défense des droits de l'homme tchadienne dit envisager notamment de déposer des plaintes au niveau de la CPI. La CPI qui pourrait donc s'emparer du dossier si elle estime que les plaintes sont fondées. Il faut aussi rappeler que le chef de groupe armé a été inscrit sur les listes de sanctions des Nations Unies le 20 avril de cette année, donc pour différents actes qui menacent la paix, la stabilité et qui compromettent la mise en œuvre de l'accord de paix qui a été signé, je vous rappelle, l'année dernière. Alors par exemple, son refus de désarmer malgré la signature de l'accord de paix, son implication dans le trafic d'armes, différentes atteintes aux droits de l'homme, enlèvement de civils, actes de violence sexuelle, recrutement d'enfants soldats ou encore entrave à l'acheminement de l'aide humanitaire lui sont reprochés. Alors, donc, après tout ça, il est difficile de dire si Miskine pourra être extradé à Bangui, ni quand cela pourrait avoir lieu.
Et on suivra évidemment cela avec vous et avec la rédaction Afrique. Merci Charlotte Cossé et merci à Samuel de nous avoir appelé ce matin de Koupéla au Burkina Faso. On va rester en Afrique centrale avec une question qui concerne le Fancy Green, un diamant vert soupçonné avec d'autres d'avoir été détourné du trésor public de RDC. Le procès du vol présumé de ce diamant de l'entreprise Miba s'est ouvert mercredi dernier. Alors Miba, c'est la société minière de Bakwanga qui exploite les diamants dans le Grand Kasaï, société mixte dont 80% des actions sont détenues par l'État congolais. Bonjour Alidor.
Bonjour Nathalie Amar, bonjour Sonia Rollet.
Ah ben voilà, vous nous appelez de Kinshasa et c'est précisément Sonia Rollet qui est en ligne pour vous répondre. Alidor, on vous écoute, quelle est votre question ?
Très bien, le procès du vol présumé du diamant Francis Green de l'entreprise Miba s'est ouvert dans le Kasaï oriental. J'ai entendu que ce géant minier est détenu à 80% par l'État, comme vous l'avez souligné. Du coup, la première question, les deux employés à l'origine de cette affaire ont dénoncé une mafia. Qu'attendent-ils par là et est-ce qu'ils disposent des preuves pour prouver leurs allégations ?
Alors Sonia, y a-t-il des preuves de ce vol du Fancy Green ? Qu'est-ce qui permet aux lanceurs d'alerte d'employer ce terme de mafia ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Claude Mianzouila, qui était le premier lanceur d'alerte en fait à la MIBA, qui est un expert indépendant qui venait pour certifier les diamants, c'est lui qui a lancé l'alerte sur le Fancy Green. Il était venu en janvier, donc en 2019, pour faire des évaluations comme ça se fait de certification et évaluer les pierres. Et il se rend compte entre deux visites qu'il y a un diamant, ce diamant vert qui a disparu. Donc il fait des alertes au niveau du centre. Et comme il y avait des tensions à l'AMIBA entre le président du conseil d'administration et le directeur général, déjà sur des accusations de gestion, ils s'accusaient les deux de mal gérer en fait la société. Il y a eu des enquêtes qui ont été lancées et c'est là où le deuxième, l'ingénieur, donc François Sangani, s'est mis à s'intéresser un peu plus près à ce qui se passait donc dans la salle de tri, donc la salle où on récupère les diamants, donc on les mesure, on les pèse, on essaie de faire des estimations pour savoir quelle est leur valeur. Et là, lui dit se rendre compte, donc en mesurant en fait ou en comparant les données de ce centre, qu'il y aurait des différences dans le poids, par exemple, des diamants entre les documents, et qu'il y aurait des disparités dans les données. Et à partir de ce moment-là, il dit bah, c'est certainement donc il y a eu remplacement en fait d'un certain nombre de diamants qui étaient de bonne qualité et qui donc dont le prix avait été donné comme assez important et qu'ils avaient été compensés par des diamants peut-être plus lourds mais de moindre valeur.
C'est
donc,
ça. Donc
il commence à donner l'alerte en interne et à remettre en fait ces informations donc au conseil d'administration. D'ailleurs, ça déclenche une enquête il y a un an, donc en juillet 2019, il y a une enquête qui est lancée. Au départ, la justice s'intéresse un peu tout le monde, autant aux lanceurs d'alerte qu'à un certain nombre de personnes dans l'AMIBA, et il y a des arrestations. D'ailleurs aussi, le gouvernement va prendre des mesures, il va y avoir des cas de suspension. D'ailleurs, ça a été un peu long pour le gouvernement de savoir le parti de qui il devait prendre, de savoir si c'était le directeur général ou savoir si c'était le président du conseil d'administration. Mmh. Et donc voilà, donc petit à petit, donc il y a eu plutôt d'ailleurs des attaques contre les lanceurs d'alerte eux-mêmes, puisqu'il y en a l'un des deux qui a perdu son travail. Aujourd'hui, il y a l'autre qui est en prison. Mmh. Et la justice a du mal en fait à conserver ou à garder même le principal accusé ou à le faire venir devant le tribunal. C'était le problème de la dernière audience, puisque la citation à comparaître pour ce prévenu avait disparu du dossier et le juge est obligé de refaire toute la procédure et a convoqué pour août donc une nouvelle audience en espérant que le principal prévenu sera là.
La deuxième question d'Alidor, Sonia, je me fais son porte-parole parce que le temps tourne. Comment les autorités congolaises réagissent-elles à ce procès? Pourquoi n'y a-t-il personne sur le banc des accusés?
C'est ce que je vous disais, il manquait une citation en fait à comparer dans le dossier. Donc les avocats et notamment de la société civile avaient fait des copies du dossier, ont montré au juge que cette citation à comparaître était bien dans le dossier, en tout cas eux avaient une copie. Donc le juge a pris la décision de relancer en fait le processus et d'essayer donc d'atteindre ce principal prévenu qui lui se trouverait à Kinshasa. Mais c'est vrai que entre les deux, le principal lanceur d'alerte a lui été arrêté sur des accusations en fait de diffamation à l'encontre de la femme du directeur financier de l'AMIBA. Et c'est ce dont se plaint la société civile dans cette affaire, c'est que finalement tous ceux qui avaient été accusés au départ par la justice ont été libérés et sont aujourd'hui de simples témoins, et que même le seul prévenu qui avait été gardé par le parquet finalement ne se présente pas et que la justice n'arrive pas à le faire se présenter. Donc on verra ça à la prochaine audience.
Merci Sonia Rollet d'avoir été en ligne avec nous. Alors on avait une dernière question qui concerne le Boeing 737. Je ne suis pas certaine qu'on ait le temps de la traiter ce matin. Le Boeing 737, c'est cet avion qui a été interdit de vol depuis le 13 mars de l'année dernière, hein, 13 mars 2019, après deux tragédies dont le crash d'Ethiopian Airlines, 157 morts. Le Boeing 737 qui a entamé une série de vols de certification pour un logiciel qui était en cause dans la survenue de ces accidents, le crash d'Ethiopian Airlines et le crash de Lion Air, hein, plus de 300 victimes en tout. Antoine voulait savoir quel avait été l'impact pour Boeing des crashs de ce 737 Max. Malheureusement, Antoine, je pense qu'on va être obligé d'attendre l'émission de demain pour pouvoir vous répondre. Et je présente toutes mes excuses à Agnieszka Kumor du service économie qui était en ligne avec nous pour vous répondre. C'est promis, on évoquera cette question demain assez rapidement dans l'émission pour qu'elle ne soit pas reléguée et pour qu'on ne soit pas obligé à nouveau d'y renoncer. Dans 10 minutes après le journal, on débat de la Côte d'Ivoire, la présidentielle dans ce pays. Dans 3 mois, vous le savez, l'opposition réclame une refonte complète de la commission électorale indépendante, l'accusant de pencher en faveur du pouvoir. Alors qu'en pensez-vous? Est-il encore temps de changer quoi que ce soit avant le vote du 31 octobre? On attend vos réactions, Facebook, Twitter et le numéro 693 693 70. À tout de suite.